Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 3 octobre 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Gabon, formation du gouvernement du nouveau Premier ministre Emmanuel Issoze Ngonde.
En Éthiopie, des dizaines de morts et de blessés ce dimanche dans la région de l'Oromia.
L'enfer sur Terre, c'est ainsi qu'un haut responsable de l'ONU a qualifié les quartiers rebelles d'Alep, soumis au bombardement du régime syrien et de son allié russe.
En Afghanistan, nouvelle attaque des talibans ce matin contre Kunduz, un chef-lieu de province du Nord.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Gabon, quelques jours après sa nomination au poste de Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngonde a formé hier son cabinet. Il compte 40 membres, dont 11 femmes. Quelques changements importants à signaler dans ce nouveau gouvernement, nous dit de Libreville notre correspondant Jean Revis d'Abani.
Les piliers qui sont le pétrole, la communication, gardent leur poste, mais avec des pouvoirs élargis. Alain-Claude Biliebinze, homme de confiance du Sérail, garde son poste mais devient ministre d'État. Les portefeuilles de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice changent de titulaire. Jusqu'ici, secrétaire général de la Présidence de la République, Étienne Massard devient ministre de la Défense nationale. Pacom Mubele Boubeya quitte l'Intérieur pour les Affaires étrangères. À l'administration du territoire et l'intérieur, on retrouve Lambert Mata, une maison qu'il connaît bien. Il a été pendant près de 25 ans secrétaire général du ministère de l'Intérieur. L'avocat Francis Nkeya, allié du pouvoir, devient ministre d'État en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Il est aussi en charge du dialogue politique. C'est d'abord un gouvernement pour remercier les alliés. Paul Biyogemba, jusqu'ici ministre de la Santé, l'ancien journaliste et ancien président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangu, sont récompensés pour leur soutien à la réélection du candidat Ali Bongo. Dans les rangs du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, l'ancien ministre délégué à l'intérieur, Guy Meksan Mamiaka, Françoise Asengon Obam, sont appelés en renfort pour aider à la mise en œuvre du programme politique du candidat Bongo. L'ancien candidat à la présidentielle d'août dernier, Bruno Ben Moubamba, hérite de la vice-primature en charge du logement. Il aura pour mission de gérer l'ambitieux projet de logements sociaux. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
Au moins 14 personnes, dont 2 militaires et des enfants, ont été tuées dans l'attaque d'un train attribué aux ex-combattants ninja de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, dans la région du Poul, au sud de Brazzaville, et ce qu'a annoncé hier la police congolaise, qui a précisé que l'attaque a eu lieu vendredi dans la zone de Mindouli, entre les gares de Kinkengbo et Lulombo.
En Côte d'Ivoire, le projet de constitution que le président Alassane Ouattara doit présenter mercredi devant l'Assemblée nationale a été mis en ligne ce dimanche par le LIDER, parti d'opposition dirigé par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly. Toutefois, selon l'AFP, il n'a pas été possible d'en confirmer l'authenticité. Le projet, qui sera soumis à un référendum fin octobre, prévoit notamment la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat, la constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Un collectif de 11 ONG ivoiriennes et internationales a appelé mi-septembre au report de ce référendum, estimant qu'une importante proportion de la population ivoirienne est peu informée du projet. 23 partis d'opposition ont rejeté fin juin la convocation du référendum et réclamé celle d'une assemblée constituante.
Des dizaines de morts et de blessés ce dimanche dans la région éthiopienne de l'Oromia. C'était quand la police a usé de gaz lacrymogène et de coups de feu de semences pour disperser des manifestants lors d'une fête régionale à laquelle participaient des milliers de personnes. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dessalegn a fait état de 52 morts et de plusieurs blessés lors de ces incidents qui ont eu lieu à Bishoftu, localité située à une quarantaine de kilomètres au sud d'Addis Abeba. Il a imputé la responsabilité de la tragédie à des forces perturbatrices et démenti les informations selon lesquelles la police aurait tiré sur les manifestants. L'opposition, elle, affirme qu'il y a eu au moins 100 morts. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées sur les bords du lac Arsadi, sacré pour les Oromo, pour assister à la cérémonie de l'Iricha qui marque la fin de la saison des pluies. Certaines personnes au sein de la foule criaient « Nous voulons la liberté, nous voulons la justice » et agitaient le drapeau d'un groupe rebelle. Tout a dégénéré quand des responsables gouvernementaux locaux ont voulu prendre la parole, suscitant une réaction hostile de la foule.
Un journaliste néerlandais a été tué dimanche en Libye en couvrant les combats entre les forces du gouvernement d'Union nationale, GNA, et l'organisation djihadiste État islamique, ASIRT. Selon une source médicale, il s'agit du journaliste Yerouane Erlemans, dont la dépouille se trouve actuellement à l'hôpital de la ville de Misrata, située à quelques 200 km à l'ouest de SIRT et siège du commandement des forces du GNA. Erlemans travaillait en Libye, notamment pour l'hebdomadaire belge NAC, qui confirme sa mort.
Erlemans est le premier occidental et le deuxième journaliste à trouver la mort en couvrant les combats à Sirte. La mort du journaliste survient alors que de nouveaux combats ont éclaté hier à Sirte, qui est situé à 450 km à l'est de Tripoli. 8 soldats des forces loyalistes et au moins 10 djihadistes ont été tués dans les affrontements qui ont éclaté hier dans ce bastion de l'État du groupe État islamique que les troupes loyalistes tentent de reprendre depuis 5 mois.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les forces du régime de Bachar al-Assad poursuivent leur progression vers les quartiers rebelles d'Alep, qui, selon un haut responsable de l'ONU, sont devenus l'enfer sur Terre. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Pour citer le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, les quelques 250 000 habitants de la partie assiégée d'Alep sont confrontés à un niveau de sauvagerie qu'aucun humain ne devrait avoir à supporter. Il a appelé dimanche à une action urgente pour y mettre fin. Le temps presse, arrêtez le carnage maintenant, a imploré M. O'Brien. Face à cette tragédie humaine, la Commission européenne a annoncé une initiative humanitaire d'urgence pour permettre aux organisations humanitaires d'aider la population et notamment assurer les évacuations médicales des blessés et des malades d'Alep Est. Mais 10 jours après le lancement par le régime et son allié russe d'une vaste offensive sur Alep Est, l'étau se resserre autour de cette partie de la ville contrôlée par les rebelles.
En Afghanistan, les talibans ont lancé ce matin une nouvelle attaque contre Kunduz. Il y a près d'un an, cette ville septentrionale avait été brièvement prise par les talibans, puis reconquise par l'armée au terme de près de 2 semaines d'affrontements. C'était la première fois que les insurgés s'emparaient d'un chef-lieu de province depuis qu'ils ont été chassés du pouvoir en 2000 ans.
En Colombie, et contre toute attente, les électeurs ont rejeté hier à 50,21% contre 49,78% la paix avec la guérilla des FARC. C'était à l'occasion d'un référendum sur l'accord visant à terminer 52 ans de conflit. Mais le président Juan Santos ne renonce pas à la paix. Il a assuré que le cessez-le-feu bilatéral et définitif, observé depuis le 29 août, reste valide et restera en vigueur. De son côté, Timochenko, le chef des FARC, a réitéré la volonté des guerrieros de ne faire usage que de la parole comme arme de construction de l'avenir. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco. Timothée Drangmaï.
Le cacao ivoirien dispose depuis samedi du label Origine Côte d'Ivoire. Il a été lancé à l'occasion de la Journée mondiale du cacao avec pour objectif d'informer les consommateurs que nous ne sommes pas seulement le premier producteur mondial, mais que notre cacao est le meilleur, a tenu à souligner le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Koulibaly. Le modèle pour les Ivoiriens, le label Café de Colombie, dont il espère répliquer le succès mondial. Le commerce international du perroquet gris africain est désormais interdit. Une décision prise dimanche par la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction, CITES, réunie à Johannesburg. Très recherché dans le monde en raison de son plumage, mais aussi de sa capacité à imiter la voix humaine, cet oiseau est extrêmement rare ou a disparu localement dans divers pays africains, souligne un communiqué de la Wildlife Conservation Society. Enfin, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a décliné de plus de 100 millions dans le monde en dépit du ralentissement économique, a fait savoir la Banque mondiale dimanche. En 2013, 767 millions de personnes vivaient avec moins de 2 dollars par jour, tandis qu'elles étaient 881 millions l'année précédente, a précisé la banque. Toutefois, des efforts restent à faire si l'ONU veut atteindre l'objectif d'éliminer l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2030, un des 17 objectifs de développement durable.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatin. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football avec le sprint final pour la qualification de la CAN des moins de 17 ans, Madagascar 2017. On connaît 7 des 8 équipes qualifiées à l'issue du dernier tour des éliminatoires.
Oui, alors le pays organisateur, évidemment, est si qualifié sur le terrain. Il reste une place à prendre et ce sera ce lundi à l'issue du match Guinée-Sénégal à Conakry. Un match reporté en raison de l'arrivée tardive des arbitres. Sinon, à Brazzaville, le Congo est passé de justesse face à la Tanzanie grâce au but inscrit à l'extérieur lors du match aller. Le score du match retour 1-0. Le Cameroun aussi est parvenu à remonter 2 buts. Victoire à Bafoussam, 5 buts à 1 des Camerounais après leur défaite de 4 buts à 2 à Khartoum. Qualification également du Mali, vainqueur 2 à 1 en Éthiopie. Des Aiglons qui avaient déjà gagné le match aller à Bamako 2 à 0.
A noter, Élisée, que 3 équipes ont validé leur billet samedi.
Effectivement, et ça passe pour le Niger face au Gabon. Après leur victoire 1 à 0 chez eux à l'aller, les jeunes ménas sont allés chercher le nul 3 partout à Libreville. Déception en revanche pour la Côte d'Ivoire, le vainqueur de l'édition 2013 n'est pas parvenu à inverser la tendance face au Ghana. Après leur défaite de 3 buts à 1, il y a 2 semaines, les éléphantos ont concédé le nul à Abidjan 0 à 0. Enfin, facile qualification de l'Angola comme prévu, victoire 2 à 0 au Comores après la balade du match aller sur ses 5 buts à 0.
Alors toujours chez les moins de 17 ans, mais chez les filles cette fois-ci avec la Coupe du Monde en Jordanie. Et c'est mal parti pour les équipes africaines.
Oui, après la défaite inaugurale du Cameroun face au Canada, 3 buts à 2, les deux autres représentants du continent ont perdu. Le Nigeria face au Brésil 1-0 et le Ghana devant le Japon, tenant du titre, très nettement 5 buts à 0. Le programme de la deuxième journée, aujourd'hui, le Cameroun joue contre le Venezuela et demain donc, le Nigeria face à l'Angleterre et le Ghana jouera contre les États-Unis.
On fait le tour africain des stades et au Nigeria, ce sont les Rangers d'Enugu qui sont sacrés champions.
C'est suite à la victoire de 4 buts à 0 face à El Kanemi que le club d'Enugu s'adjuge le titre de champion de cette année au Nigeria. Un sacre obtenu lors de la dernière journée avec 3 points d'avance sur Dolphin de Port-Harcourt. Enimba Daba, le champion en titre, termine au milieu du classement. En RDC, pour son premier match en championnat, le tout-puissant Mazembe a réussi à battre Don Bosco 3 buts à 0. Deuxième match par contre pour l'ASV Club de Kinshasa qui a dominé l'AS Dragon Belima sur le score étriqué de 1 but à 0, but du Rwandais Ernest Sugira. Notons le succès du FC Renaissance 2-0 devant Rojolu. Et puis au Cameroun, il était question de coupe. Les demi-finales allées de la Coupe nationale ont vu Babutus et APGS prendre une option pour la finale. Le club de Mouda est allé battre à Garoua le Coton Sport 1-0. APGS s'est aussi bien comporté, mais à domicile en surclassant Sporting de Douala 3 à 0. Les matchs retour sont prévus pour le week-end prochain.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, reprise pendant le week-end des travaux du dialogue national en plénière, la journée de samedi était surtout consacrée à l'exposé du président de la Commission électorale nationale indépendante concernant le calendrier électoral. Corneille Nangaa a annoncé aux délégués du dialogue que les trois scrutins, élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, devront se tenir en novembre 2018. Une date rejetée par l'opposition de Kinshasa. Reportage de Walter Kyu de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Corneille Nangaa a présenté les indications sur le calendrier électoral en prenant en compte les propositions des parties prenantes au dialogue. Premier enseignement, il faudra attendre jusqu'au 31 juillet 2017 pour avoir un fichier fiabilisé. Débutera ensuite un marathon électoral. Répartition des sièges par circonscription, inscription des candidatures, commande et production, livraison des matériels dits sensibles, déploiement des matériels, recrutement, formation et déploiement des agents électoraux avant le jour du vote. La somme de ces opérations devra durer 504 jours à dater du 31 juillet 2017, a dit Corneille Nangaa, président de la CENI.
Nous avons présenté les chemins critiques en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales. On est arrivé, avec l'appui de la communauté internationale, à dégager des indications. Et cette indication se résume premièrement que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral le 31 juillet 2017 et nous allons convoquer l'électorat pour les trois scrutin en novembre 2017.
Côté opposition, on souhaite que certains délais dans le calendrier électoral soient compressés pour avoir une période courte et techniquement réalisable. Vital Kamere est chef de délégation.
Au niveau de l'opposition, nous pouvons dire la première convergence avec la CENI, c'est que nous acceptons que finalement, on puisse convoquer l'électorat en 2017. Mais nous allons réajuster au niveau du mois, puisque nous parlons du 30 septembre 2017. La CENI parle de novembre 2017. Nous voulons une période la plus courte possible, mais techniquement réaliste et réalisable. Les autres discussions vont se poursuivre maintenant au niveau des négociations entre composantes.
À la majorité présidentielle, on souligne que c'est la CENI qui a la responsabilité d'élaborer le calendrier électoral. Léonard Cheokitundu est porte-parole de la composante majorité.
Il était très intéressant d'écouter le pouvoir organisateur des élections à travers son président, qui nous a expliqué tous les agrégats qu'il faut prendre en considération pour organiser de bonnes élections. Dans les discussions que nous allons avoir après avoir entendu le président de la CENI dans le groupe de travail qui a été mis sur pied pour examiner tous ces paramètres, ça nous permettra de conclure un accord politique qui permet de sanctionner la clôture de ce forum dans l'intérêt général.
À la conférence épiscopale nationale du Congo, on continue de plaider pour un dialogue inclusif. L'abbé Donatien Cholet est premier secrétaire général de la CENCO.
Et pour l'instant, cette voie de la paix demande qu'on écoute les uns les autres dans un cadre qui puisse garantir la paix dans ces pays. La CENCO s'est déjà prononcée pour le délai le plus court possible. Elle a émis le vœu que ce soit plus tard dans une année. Je dirais la CENI n'a pas de choix. Qu'est-ce qui nous a amené les gens ici au dialogue? C'est une date qui pose problème puisqu'on se rend compte que la date du 19 août ne sera plus être respectée. On va sortir sans une autre date pour assurer? Ça n'aura pas de sens. Et si, suite au manque de responsabilité des uns et des autres, la situation s'embrasait? Mais je crois que personne ne sera gagnant dans cette histoire. Et l'histoire nous juge.
Les dates du 19 et 20 décembre dont fait référence la Ben Cholet sont les dates marquant la fin du mandat du président actuel. Kinshasa, Walter Nkui de Top Congo pour VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Burkina Faso, le procureur général a affirmé lors d'un point de presse pendant le week-end qu'en l'état actuel des choses, l'ancien président Blaise Compaoré ne peut pas être jugé pour attentat à la Constitution et haute trahison. De Ouagadougou, les raisons et réactions dans ce reportage de Zoumana Wonogo.
C'est publiquement face à la presse que le procureur général, près la Haute Cour de justice, Armand Ouédraogo, a lancé ce pavé dans la mare.
Blaise Compaoré a été mis en accusation pour haute trahison et attentat à la Constitution. Mais si vous prenez la haute trahison, l'attentat à la Constitution, ce ne sont pas des infractions dans le droit positif. On a affirmé haute trahison, attentat, on doit juger le chef de l'État pour ça. Mais si vous ne dites pas d'abord en quoi consiste la haute trahison ou l'attentat, vous voulez que le juge puisse traiter le dossier comment?
Comment les Burkinabés ont reçu cette déclaration?
Ça me décourage. S'il ne peut pas être jugé, c'est peut-être question de temps. Si toutes les conditions sont réunies, il va être jugé. Ça c'est clair. Il ne peut pas rester injugeable. Pas possible. Après tous les crimes, Blaise serait jugé. C'est qui est sûr, Blaise serait jugé. Toutes les formes seront réunies pour qu'ils soient jugés, ça c'est clair.
Je ne suis pas vraiment satisfait de cette déclaration parce qu'on voulait que justice soit rendue à ceux qui se sont battus pour notre insurrection. Maintenant, quand ils disent que le président Blaise Compaoré ne peut pas être jugé, nous sommes vraiment très découragés.
Alors moi, en tant que citoyen, je suis vraiment très déçu de l'avis donné par le procureur. Mais je pense que la loi, elle est faite par les hommes. Il y a une possibilité pour vraiment arriver à mettre la main sur Blaise et le juger en toute transparence et en toute équité. Parce qu'il revient au Burkinabé d'avoir la vérité et de connaître réellement ce qui s'est passé.
Pour Idrissa Nogo, coordonnateur du mouvement « Plus rien ne sera comme avant », il faut plutôt pointer les doigts accusateurs sur le CNT, le Parlement de la Transition.
Les organes de la transition se sont vantés d'avoir voté massivement un certain nombre de lois. Ils ont même permis de comparer cette prouesse-là à la législature du temps de Blaise Compaoré, qu'ils auraient donc dépassé en matière donc de vote de loi vu sous l'angle de la quantité. Ce n'est pas la quantité qu'il faut mettre en exergue, c'est plutôt la qualité des lois votées, l'effet qui devait être donc suivre pour la mise en exécution de ces lois-là. Ils se sont contentés de prendre des lois. Voilà qu'effectivement, c'est un nombre donc de dispositions qui ne leur permettent pas forcément donc de mettre en accusation un certain nombre de personnalités.
Le procureur général, après la Haute Cour de justice, se donne un délai de 3 mois pour juger les ministres, dont Blaise Compaoré, mais cette fois-ci en tant que ministre de la Défense. Zoumana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
À Bamako, signature de convention entre les États-Unis et le gouvernement malien. Pour les détails sur cet accord de subvention, nous retrouvons notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Cette signature de convention qui avait pour cadre la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été une occasion pour l'ambassadeur des États-Unis au Mali de réaffirmer l'amitié et le partenariat des États-Unis d'Amérique envers le Mali, car les USA veulent un Mali plus fort, sûr et prospère. C'est pourquoi il dira que la signature de cette convention est une preuve supplémentaire de leur engagement envers le Mali. Paul Folsby, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, au Mali.
Le montant total de cette subvention est de 6 430 000 dollars américains, soit 3 215 millions de francs. Cette subvention aidera le système judiciaire malien dans la prise en charge des besoins des Maliens. Elle offre une assistance pour la mise en œuvre de programmes d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et la mise en œuvre de la Cour d'Alger. L'initiative présidentielle SGI dans le secteur de la gouvernance et de la sécurité.
Cette subvention aidera le système judiciaire malien dans la prise en charge des besoins des Maliens en offrant une assistance pour la mise en œuvre du programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et la mise en œuvre de l'accord d'Alger.
Elle assistera l'État malien à assurer le retour de l'administration dans la région de Kidal et à reconstituer le tissu social et prendre en charge les besoins immédiats des populations de Kidal. Enfin, cette subvention aidera le Mali dans ses efforts de prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec des handicaps. Le Mali est un pays de solidarité avec justice sociale. Le gouvernement des États-Unis sont réjouis et en fiers de vous accompagner dans ce sens.
Au-delà du secteur de la justice, la subvention appuiera le gouvernement du Mali dans l'élaboration de sa stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Les questions liées à l'extrémisme, les questions liées aux sources du conflit qui permettront aussi de renforcer le capital humain dans ce pays. L'enveloppe financière qui est décidée dans ce cadre est une enveloppe importante du Mali. Je ne peux que vous donner l'assurance, mesdames et messieurs, que pour notre part, le gouvernement et l'ensemble des services techniques maliens mettront tout en œuvre pour une exécution diligente et correcte de cette contribution importante à la stabilisation du Mali.
À la fin de la cérémonie, Paul Folsby a félicité le gouvernement du Mali dans ses efforts d'unification du pays, tout en cultivant une paix durable, car les Américains veulent que le Mali s'assume dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Présidentielle américaine 2016, les équipes de campagne du républicain Donald Trump et de la démocrate Hillary Clinton croisent le fer au sujet d'une nouvelle controverse, des extraits de ce qui serait la feuille d'impôt 1995 de Trump, publiée par le New York Times. Envoyée anonymement au principal quotidien new-yorkais, ces documents qui tiennent en trois pages montrent que l'homme d'affaires Donald Trump aurait déclaré des pertes de 916 millions de dollars en 1995, un montant qu'il pourrait avoir alors déduit de ses impôts fédéraux sur près de deux décennies et ne pas ainsi payer d'impôts fédéraux sur toutes ces années. De nouveau, Timothée Donangmaï.
Le New York Times explique que les documents fiscaux de Trump exposent les bénéfices fiscaux extraordinaires qu'il a tirés dans les années 1990 à travers la mauvaise gestion de trois casinos d'Atlantic City, son aventure malheureuse dans le transport aérien et son acquisition inopportune du Plaza Hotel de Manhattan.
Rien d'illégal dans tout cela, soulignent les experts en fiscalité, qui font remarquer que la loi américaine autorise les entreprises à déduire leurs pertes de leurs impôts.
Tout à fait, Idrissa, mais pour Hillary Clinton et les démocrates, c'est une aubaine. Eux qui réclament depuis des semaines la publication des fiches d'impôts de Donald Trump n'en demandaient pas mieux. On se rappelle qu'au premier débat, la candidate démocrate avait laissé entendre que son adversaire républicain ne veut pas publier sa feuille d'impôt de peur que les Américains constatent qu'il prend avantage de la loi pour ne pas payer d'impôts fédéraux. En une année, Donald Trump a perdu près d'un milliard de dollars et il a apparemment évité de payer les impôts pendant près de deux décennies, alors que des dizaines de millions de familles laborieuses se sont acquittées des leurs, dénonce l'équipe de campagne de Mme Clinton dans un communiqué. La candidate démocrate elle-même a refusé de répondre aux questions des journalistes sur cette affaire lors d'un passage dimanche à Charlotte, en Caroline du Nord.
Pas de quoi fouetter un chat, rétorquent les républicains, Tim.
La seule nouvelle ici est que ces prétendus documents fiscaux vieux de plus de 20 ans et illégalement obtenus sont une autre preuve que le New York Times, comme les médias de l'establishment en général, est une extension de la campagne de Clinton, a écrit la direction de la campagne de Donald Trump dans un communiqué. L'intéressé lui-même a réagi sur Twitter dimanche, assurant « Je connais nos complexes lois fiscales mieux que quiconque s'étant porté candidat à la présidence et moi seul peux les régler ». Avec le premier débat entre l'écolistier, le démocrate Tim Kaine et le républicain Mike Pence prévu mardi 4 octobre, et le deuxième face-à-face Donald Trump-Hillary Clinton le dimanche 9 octobre, la question des impôts de Trump continuera sans doute d'être évoquée par les démocrates.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.